Et le journal est présenté par Aurélie Kiefer. Bonsoir Aurélie.
Bonsoir Hervé, bonsoir à tous. Le Conseil constitutionnel censure la loi anti-casseurs. Il rejette l'article 3 sur l'interdiction administrative de manifester. Éclairage dans un instant de Maxime Fayolle. Nouvelle mobilisation contre la loi sur l'école et la réforme du bac. C'est dans le primaire que l'appel à la grève a été le plus suivi. Les Français réduisent leurs achats de produits alimentaires et la déconsommation a un impact sur l'industrie alimentaire. Analyse d'Anne Lorchouin. Et puis nous irons à Jérusalem. Benjamin Netanyahou a bon espoir de remporter les élections législatives mardi. Le Likoud est passé en tête dans les sondages. Il avait été saisi par Emmanuel Macron pour évaluer 3 articles contestés de la proposition de loi anti-casseurs. Le Conseil constitutionnel a rendu sa décision cet après-midi et il retoque l'article 3, celui qui suscitait les oppositions les plus vives. Bonsoir Maxime Fayolle.
Bonsoir.
L'article 3 prévoyait que les préfets pourraient interdire à certains individus de manifester.
Et oui, le gouvernement entend par là prévenir les troubles à l'ordre public très nombreux au cours de ces 20 semaines de manifestation des Gilets jaunes. Un objectif pertinent mais qui doit être concilié avec les droits et les libertés constitutionnellement garantis, c'est ce que les sages ont évalué. L'interdiction posée par cet article 3 est-elle nécessaire, adaptée et proportionnée? Alors, rappelons que cet article a fait l'objet d'une controverse en commission des lois à l'Assemblée. Plusieurs groupes et même la majorité souhaitaient une réécriture de cet article, ce que le gouvernement a consenti. Désormais, pour que le préfet interdise à quelqu'un de manifester, cela doit résulter d'un acte violent ou d'agissement commis lors de manifestations violentes. Alors que concluent les sages ce soir? Qu'une autorité administrative, comme un préfet, a le droit d'interdire à une personne de manifester. Sur ce point, l'opposition était vent debout. Mais, et c'est ce que le gouvernement n'a pas précisé dans sa rédaction, il faut que le comportement de l'individu ait un lien avec les atteintes aux biens ou aux personnes pendant la manifestation. En effet, selon le texte adopté, n'importe quel agissement, terme déjà ô combien vague, même sans lien avec les atteintes physiques ou matérielles, pouvait justifier une interdiction de manifester. Et peu importe d'ailleurs l'ancienneté de ses agissements. Il y a donc selon les sages une latitude excessive laissée à l'autorité administrative et donc une atteinte portée au droit d'expression collective des idées et des opinions, une atteinte disproportionnée par rapport à l'exigence du maintien de l'ordre.
Le mouvement des Gilets jaunes avait donné l'idée à Emmanuel Macron d'un grand débat national. Le chef de l'État effectue aujourd'hui son dernier déplacement en région. Dans ce cadre, il est en Corse, dans le village de montagne de Cozzano. Les responsables nationalistes ont boycotté cette rencontre, dénonçant une absence de dialogue. Mais avec les maires présents, le président a entamé, dans le calme, un débat très axé sur la vie quotidienne. Camille Cronier.
Oui, et dès le départ, il y a déjà 3 heures, tout le monde semble avoir voulu calmer le jeu. Emmanuel Macron prononce ses premiers mots.
Je souhaite aujourd'hui que nous puissions avoir le débat le plus libre et utile possible. Nous ne sommes là que parce que nous partageons les mêmes idéaux. Je ne renoncerai jamais à nos idéaux au nom de quelque ancrage que ce soit. Et je ne demanderai à personne de sacrifier son ancrage au nom de quelque idéal.
Et les maires, comme Jean-Baptiste Luccioni, ont un message pour ceux qui ne sont pas là, en particulier les nationalistes qui ont appelé au boycott.
Pour moi, venir ou ne pas venir aujourd'hui, la question ne s'est même pas posé. La stratégie de la sèche vide n'a que trop longtemps nui à notre île.
Le débat peut donc commencer sereinement avec, vous l'avez dit, de la part des maires de la région, la plus pauvre de France, des questions très concrètes.
Pourquoi en Corse l'essence est plus chère? En fait, pourquoi en Corse tout est plus cher?
Il faut savoir que les communes de Corse, des dizaines et des dizaines de communes de Corse sont en train de mourir.
Les difficultés sont très nombreuses. Difficultés d'accès à l'emploi, difficultés d'accès au logement, difficultés d'accès aux soins.
Tout y passe ou presque. Emmanuel Macron répond que ce n'est pas que de la faute de l'insularité et que certains problèmes d'ailleurs ne relèvent plus des compétences de l'État. Pique à peine caché aux nationalistes au pouvoir en Corse avant d'enchaîner.
Je pense que les Corses méritent mieux que des guerres de tranchées ou de positions.
Et le président déplore enfin toujours à l'attention des nationalistes ne pas avoir entendu de regrets de leur part sur l'assassinat du préfet Erignac en 98.
Camille Crony avec Jean-André Giannichini à la technique. Le projet de loi Blanquer n'a décidément pas la confiance de tous les enseignants. C'était la 3e mobilisation en quelques semaines contre le texte du ministre de l'Éducation. Plusieurs milliers d'enseignants ont défilé à Paris et quelques centaines dans d'autres villes. Bonsoir Hakim Kasmi.
Bonsoir les kiffeurs.
C'est dans le primaire que la grève a été le plus suivie. 15% des instituteurs n'ont pas fait classe selon le ministère, 25% selon le SNUIPP qui a compté 70% de grévistes à Paris. Quelles sont leurs inquiétudes?
Parmi les points d'inquiétude, les regroupements entre les collèges et les écoles primaires qui risquent de faire disparaître les postes de directeurs d'école. Alors même si Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Éducation, indiquait par courrier qu'ils ne se feront que sur la base du volontariat, cela ne rassure pas du tout Brigitte, enseignante à Paris en CE2 qui en est déjà à son 3e jour de grève en moins d'un mois.
Sans nos directeurs, on ne pourra pas fonctionner. Ils sont là pour gérer une équipe, ils sont là aussi pour remplacer quand un enseignant est malheureusement absent. On ne voit pas comment on peut fonctionner avec un assistant d'un principal de collège qui ne sera pas dans l'école.
Autre point de discorde, la possibilité pour des étudiants en première année de master de remplacer des profs absents, ce que dénonce Jérôme, enseignant SECPA, section pour les élèves en très grande difficulté dans l'académie de Dijon.
Même au bout de 20 ans d'enseignement, j'ai la modestie de penser que je ne suis pas encore au point face aux élèves. Et là, ce sont des étudiants sortis des bancs de la fac qu'on met devant les élèves. Les parents sont rassurés, ils ont quelqu'un devant leur gamin, mais quelqu'un qui n'est pas formé. Bah, après tout, pourquoi pas maintenant aller directement chercher à Pôle emploi, ce qui arrive déjà hein, sur le Bon Coin. On cherche parfois des enseignants dans le 93 pour les mettre devant les élèves.
Dans la manifestation également, de nombreux enseignants du secondaire venus dénoncer la réforme du baccalauréat et les 2600 suppressions de postes prévues dès l'année prochaine au collège et au lycée. Brendan Chaban, co-secrétaire Sud Éducation.
C'est la mise en place d'un lycée du tri social. Le ministère lui-même a sorti une circulaire au recteur dans laquelle il indique que lorsqu'il n'y aura pas de place, les élèves seront sélectionnés, seront triés et donc n'auront pas accès à toutes ces options qui semblent intéressantes et qui par ailleurs sont mises en place dans les lycées de centre-ville, mais qui sont progressivement, et on le voit dès maintenant avec les dotations horaires confiées aux établissements, qui seront retirées des lycées périphériques, des lycées ruraux notamment.
Les syndicats pour l'éducation entendent bien maintenir la pression avant l'arrivée du projet de loi au Sénat début mai.
Hakim Kasmi. La mère de Mohamed Merah était auditionnée ce matin au procès en appel de son deuxième fils. Elle a demandé pourquoi Abdelkader Merah était incarcéré depuis 7 ans, assurant qu'il n'avait rien fait. L'audience, bien que tendue, a été plus calme qu'en première instance. Cet après-midi, changement d'ambiance. La parole a été donnée à la famille du militaire Imad Ibn Ziaten, le premier militaire abattu par Mohamed Merah. Sa mère et deux de ses enfants sont venus témoigner, Florence Turme.
Moi aussi, je suis née de l'autre côté de la Méditerranée. Moi aussi, j'ai 5 enfants. Mais aussitôt, Latifa Ibn Ziaten refuse toute autre comparaison avec la mère d'Abdelkader Merah, venue déposer ce matin. Je suis une femme d'origine marocaine, poursuit-elle, très droite, à la barre, pantalon et veste noire, les cheveux dissimulés sous un foulard imprimé. La France, elle m'a aimée et moi, j'aime ce pays. Le plus important pour moi, c'était de m'intégrer. J'ai tout donné pour mes enfants, des valeurs, l'éducation, l'amour. Ils sont tous les 5 devenus fonctionnaires. À son tour, Hatim Ibn Ziaten s'avance, il est professeur d'éducation physique, l'aîné de la famille. Moi, je voudrais remercier mes parents pour leur éducation. Ceux qui sont dans le box n'ont pas eu cette chance. Il évoque son frère, si fier de servir la République française, courageux face à cette idéologie haineuse. La justice, elle doit être juste, mais elle doit être ferme, lance le jeune homme sans un regard pour les deux accusés. Dans 20 ans, ils vont sortir, c'est des bombes à retardement. Puis, Ikram Ibn Ziaten s'approche de la barre, c'est la seule fille de la famille, assistante administrative aux Beaux-Arts, 3 enfants, qui me posent des questions et à qui je n'arrive pas à répondre. Imad, c'était l'un de mes piliers, j'ai 4 frères et j'ai l'impression qu'on m'a retiré une jambe. Sa voix tremble, au bord des larmes, le deuil n'est pas un sentiment passager, nous, on a vraiment pris pour perpète. Ces gens-là, ils vont sortir un jour, elle reprend les mots de son frère et c'est des bombes à retardement.
Florence Turman, direct du Palais de Justice de Paris. La déconsommation est bien réelle en France. Les derniers chiffres de l'INSEE montrent un vrai changement d'habitude dans la consommation alimentaire des Français. Ils veulent mieux manger et achètent plus de bio. Mais depuis 10 ans, ils n'avaient jamais dépensé aussi peu dans les produits alimentaires, Anne Lerchouin.
C'est ce qu'on peut appeler un signe des temps. Ces statistiques de l'INSEE, mais aussi de plusieurs cabinets spécialisés dans la consommation, ont noté ce phénomène. Les Français achètent moins, mais mieux. On a beaucoup glosé sur le succès fulgurant de la bio, dont le marché approche tout doucement des 10 milliards d'euros. Un marché qui grossit alors que la part globale dédiée à l'alimentation dans le budget des ménages, elle, ne cesse de baisser. Elle est encore plus basse aujourd'hui qu'après la grande crise de 2008. L'industrie agroalimentaire et la grande distribution s'en inquiètent. Elles en tirent un premier enseignement. La guerre des prix bas entre enseignes qui se solde le plus souvent au détriment des producteurs. Cette guerre n'a pas poussé à la hausse de la consommation Au contraire, elle a surtout fait perdre de la valeur aux produits alimentaires et elle a eu des conséquences sur toute la filière, avec en bout de chaîne des difficultés de recrutement dans le secteur. Première victime, les grandes marques sur lesquelles les enseignes de la distribution acceptent de perdre de la marge en échange de gros volumes d'achat. Ces grandes marques internationales sont boudées. De façon générale, le consommateur français a mis dans son panier de course moins de produits l'année dernière que les années précédentes, avec une préférence de plus en plus marquée pour les produits bruts et en vrac, mais aussi pour les produits issus des PME et de préférence de PME françaises. Une tendance qui effraye l'industrie alimentaire. Avec la baisse de ses volumes de vente, elle doit aussi faire face à la baisse des mises sur le marché de nouveaux produits alimentaires et à la baisse des exportations de produits français à l'international. De premier mondial à l'export, l'industrie agroalimentaire française est passée au quatrième rang en quelques années.
Ce sont des menaces, des injures, mais aussi des agressions physiques. Les violences contre les médecins sont en augmentation. Plus de 1100 en 2018, soit 9% de plus que l'année précédente, selon un rapport de l'Ordre des médecins. Des dispositifs de prévention et d'accompagnement ont été renforcés depuis 2011, mais c'est au moment de l'agression que les médecins doivent être mieux protégés, explique le docteur Hervé Boissin. Il est coordonnateur de l'Observatoire de la sécurité au Conseil national de l'Ordre des médecins.
Déjà, il faut qu'on puisse donner l'alerte. Pour l'instant, en dehors du 17, on n'a pas de gros moyens pour donner l'alerte. Alors, on a fait des propositions au ministère de l'Intérieur il y a plus de 3 ans, sur un système de smartphone. On attend toujours la réponse, puisqu'on n'a jamais été reçu par les ministres de l'Intérieur depuis la présidence de Monsieur Macron. Je veux dire, ils nous considèrent comme la population normale, mais il ne faut pas oublier que la profession de médecin est quand même une profession très particulière et protégée théoriquement. N'oublions pas que quand un médecin est appelé, il est obligé de se déplacer, il se déplace tout seul. Quand les forces de police se déplacent, la voiture de police, ils ne sont jamais seuls. Donc il est temps que les pouvoirs publics prennent en charge la difficulté d'exercice médical en assurant la protection et la sauvegarde de nos confrères.
Hervé Boissin joint par Théo Conscience et l'Ordre des médecins demande au préfet d'accélérer le déploiement du protocole de sécurité signé avec l'État en 2011 pour protéger les praticiens. Au pouvoir depuis 10 ans, Benjamin Netanyahou espère accéder à un nouveau mandat. Les élections législatives se tiennent mardi prochain en Israël. Et dans la dernière ligne droite de la campagne, le Premier ministre semble en bonne position. Le parti bleu-blanc, une liste du centre dirigée par un ancien chef d'état-major, a inquiété le chef du gouvernement ces 2 derniers mois. Mais maintenant, elle est devancée dans les intentions de vote par le Likoud du Premier ministre, qui peut croire à la victoire, Étienne Monin.
Oui, parce qu'il l'emporterait sur les 2 indicateurs déterminants. Son parti arriverait en tête avec 1 ou 2 sièges d'avance et sa formation serait la mieux placée pour dégager une majorité qui lui permettrait de former une coalition. Ce scénario serait une victoire sans discussion pour le Premier ministre qui craint toujours d'être devancé sur la ligne d'arrivée par l'opposition bleu-blanc qui, dans ce cas-là, pourrait trouver des arguments en cas de difficulté pour assembler une coalition. Cet élan du Likoud et de ses partenaires naturels arrive après une campagne rugueuse. Elle a plus porté sur les hommes que sur les idées. Elle a été marquée par le règne des attaques, des affaires et des rumeurs qui ont été relayées pour le Likoud par des comptes Twitter suspicieux, en partie suspendus cette semaine par l'opérateur. Ces derniers jours, Benjamin Netanyahou a fait campagne comme Premier ministre. Il a renforcé son image d'homme d'État indétrônable. Il a rencontré en 10 jours Donald Trump, Jair Bolsonaro qui lui ont apporté leur soutien et Vladimir Poutine qui a permis de rapatrier le corps d'un soldat israélien disparu au Liban il y a 37 ans. Visiblement, les affaires qui visent le Premier ministre et les tensions avec Gaza ne semblent pas peser sur l'électorat du Likoud. Benjamin Netanyahou joue sa survie politique sur cette élection.
Étienne Monin à Jérusalem, on vous retrouvera demain à partir de 17h dans Grand Reportage pour un magazine intitulé « 10 ans de Netanyahou, Israël dans quel état ?». Un mois après avoir été libéré sous caution, Carlos Ghosn est à nouveau en prison. Soupçonné de malversation financière, l'ancien PDG de Renault-Nissan a été interpellé à son domicile ce matin au Japon, Yann Rousseau.
Carlos Ghosn a retrouvé en milieu de journée l'une des cellules individuelles du centre de détention de Kosuge au nord de Tokyo. C'est là qu'il avait été incarcéré pendant 108 jours entre sa première arrestation le 19 novembre et sa libération sous caution, c'était il y a un mois, le 6 mars. Alors il a dû suivre encore une fois le parcours humiliant des nouveaux détenus, fouilles corporelles, questionnaires très intimes. Et la question que posent toujours les gardiens sur place, est-ce que quelque chose vous inquiète en ce moment ? Alors il n'est pas pour l'instant formellement placé en garde à vue. Le bureau du procureur peut le faire détenir pendant 48 heures sans faire de démarche particulière. C'est au terme de ce délai qu'il va faire une demande de garde à vue de 10 jours, renouvelable une fois. Une procédure qui pourrait avoir lieu demain et qui doit être validée par un autre juge. Alors l'avocat de Carlos Ghosn a dit ce soir qu'il allait tout faire pour que son client ne replonge pas pour 3 semaines derrière les barreaux. Mais le bureau du procureur a lui dit qu'il souhaitait absolument que le Français soit enfermé car il risque, selon l'accusation, de détruire des documents liés aux nouvelles charges qui portent sur des détournements de fonds au Moyen-Orient.
Merci Yann Rousseau, correspondant des Échos au Japon. L'avocat de la famille de Carlos Ghosn compte de nouveau saisir le groupe de travail sur la détention arbitraire auprès du Haut Commissaire des Droits de l'Homme des Nations Unies pour dénoncer une détention qui n'est selon lui pas nécessaire et se déroule dans des conditions moyenâgeuses. La Corée du Sud est devenue hier soir le premier pays au monde à commercialiser la G5, l'internet mobile ultra rapide. Un lancement initialement prévu demain, mais précipité par les opérateurs télécoms coréens quand ils ont appris que l'opérateur américain Verizon s'apprêtait en secret à lancer son propre service 5G aux États-Unis. Séoul s'est ainsi assuré une première mondiale dans cette course technologique pour révolutionner les communications. Précision du correspondant de RFI en Corée du Sud, Frédéric Ojardias.
La Corée du Sud voulait à tout prix être la première nation 5G. Et c'est à 23h hier soir que les premiers clients, amenés à la hâte pour des opérations de communication express, ont découvert l'internet ultra rapide sur leur téléphone. Dans le centre de Séoul, l'opérateur KT a installé un chapiteau pour présenter des exemples d'applications. Lee Ji-young, sa représentante.
Vous pouvez ici comparer la vitesse de téléchargement d'une vidéo YouTube avec la 5G, ça va beaucoup plus vite. Et ça, c'est un futur service vidéo holographique appelé téléprésence. Vous vous tenez ici et votre hologramme apparaît là-bas. Début mars, une personne qui se trouvait à Los Angeles a ainsi été invitée à un événement à Séoul sous forme d'hologramme.
L'opérateur concurrent SK met lui en avant ses applications de jeux et de rencontres en réalité virtuelle. Sa porte-parole, Irene Kim.
Nous offrons un service de réalité virtuelle sociale. Il permet à nos clients de créer une pièce virtuelle où ils peuvent retrouver leurs amis pour voir ensemble des films ou des matchs de baseball sans bouger de chez eux. Pour que cela fonctionne, c'est important que le réseau soit très rapide.
Pour un utilisateur ordinaire de téléphone, ces applications sont pour le moment de l'ordre du gadget. Peu utiliseront cette réalité virtuelle qui nécessite un lourd casque sur la tête. La 5G est une évolution plus qu'une révolution. L'internet mobile ultra rapide sera par contre crucial dans d'autres secteurs. Les voitures autonomes, par exemple, l'utiliseront pour communiquer entre elles de façon quasi instantanée afin d'éviter des accidents.
Frédéric Ojardias à Séoul pour France Culture. Et pour conclure ce journal, zoom sur les journées des arts et de la culture qui s'achèvent ce soir. Pendant 3 jours, les campus français ont mis en avant la culture avec des spectacles gratuits proposés par les étudiants ou pour les étudiants. Cette initiative existe depuis 6 ans. Elle vise à rendre les campus plus attractifs en faisant entrer le cinéma, la musique, la danse et le théâtre au sein de l'université. Sur le campus d'Orsay, au sud de Paris, hier soir, c'était même un peu toutes ces disciplines à la fois, puisque vous avez suivi un atelier découvert de sound painting, Maud Galvez.
C'est même un langage de signes à part entière inventé par un certain Walter Thompson dans les années 70 à New York. Il y en a plus de 1800 comme le shape line.
C'est une espèce de vague comme ça qu'on fait avec la main.
L'intervenante Camille Moussion a tenté de l'apprendre aux performers, le groupe qui suit ses gestes.
Je vais dire d'abord à qui je m'adresse. Donc il y a le signe où quand je mets les deux mains au-dessus de la tête, ça veut dire tout le monde. Ensuite, je vais faire ma vague comme ça avec ma main. Et après, je vais aller dans ma boîte imaginaire. Et là, je vais faire absolument tout ce que j'ai envie, ce qui me passe par la tête. Et les performers en face vont improviser avec des sons, avec leur instrument ou leur voix, par rapport à ces signes.
Après un mail de l'université, Alexandre, étudiant en mathématiques, tente l'expérience, mais quand il s'agit de la décrire...
En fait, c'est créé par
C'est difficile à dire. Pas forcément par le corps. Ça lie les avantages de l'improvisation et les avantages de la composition, en fait. Et c'est ça que je trouve intéressant.
Ces journées culturelles veulent donner une image plus ouverte des campus français. C'est toujours cette prime, mais il faudrait faire plus. Pour Olivier Kahn, le responsable de la mission Agriculture à l'Université Paris-Sud, regrette que la faculté soit encore conçue comme un lieu fermé.
C'est une bataille aussi chez nous, hein, par rapport au personnel, aux étudiants, pour aussi les convaincre qu'il n'y a pas que des cours et que de la recherche en labo à faire sur ces lieux-là. Pour l'instant, ce n'est pas un lieu encore bien identifié comme un lieu culturel.
Mais Olivier Kahn ne désespère pas. Un jour, un public extérieur viendra à l'université pour assister à un spectacle. Maude Calves pour France Culture. Le temps sera plus calme demain vendredi avec un dégradé nuageux sur le pays. Des nuages à l'ouest. Des Hauts-de-France au Languedoc-Roussillon, le ciel se voilera progressivement. Du soleil dans l'est. Les températures minimales seront fraîches avec des gelées possibles à l'intérieur des terres. Les maximales s'étaleront de 11 à 15 degrés jusqu'à 18 sur le littoral méditerranéen. Ce journal a été préparé avec Jean-François Braun.